avec Serge Lehmann à la 10e édition des Utopiales. Bonsoir.
Bonsoir.
Nous sommes là pour parler de la bande dessinée Les Brigades Chimériques sortie aux éditions La Talente. Le projet est né comment? Puisque Fabrice Collin nous a dit que vous étiez l'initiateur du projet.
Le projet est né d'une constatation à la fois simple et très étrange, très troublante. Je suis un fan de science-fiction depuis que je suis enfant et pour moi, pendant très très longtemps, la science-fiction c'était un genre américain. Certes, il y avait eu Jules Verne et quelques auteurs français dans les temps anciens et très reculés, mais j'avais pas vraiment de connaissances concrètes sur ça. Et puis à force d'écrire moi de la science-fiction, de commencer à faire de la critique et de constater à quel point la culture française a du mal avec ce genre, je me suis posé la question de savoir si ça avait toujours été le cas. Et donc je me suis intéressé à la science-fiction française de l'avant-guerre. Et là, j'ai découvert avec assez grande surprise que non seulement il y avait une quantité de textes invraisemblables, mais qu'ils avaient été totalement oubliés, occultés de la mémoire littéraire française. On a décidé de réhabiliter cet univers de l'entre-deux-guerres en posant une question très simple, non pas pourquoi il a disparu, mais où sont passés les super-héros européens de cette époque, sachant que dans cette littérature, il y avait des personnages qui ressemblaient énormément à ceux dont s'inspiraient les créateurs de Superman et Batman au même moment en Amérique pour créer les premiers super-héros. Donc la question c'est, il y a eu des super-héros de l'entre-deux-guerres et il y a eu une grande science-fiction européenne de l'entre-deux-guerres. Qu'est devenu ce monde? Question. Et la réponse est dans la bande dessinée.
C'est pour ça qu'on a toutes ces références historiques et aussi imaginaire.
Oui, on tenait à. On nous a dit qu'on avait fait une uchronie, mais c'est pas réellement une uchronie parce qu'en fait, on n'a pas imaginé une autre histoire que celle qui est arrivée. On a raconté l'histoire embellie, enfin comment dire, enrichie, pas embellie, mais enrichie. C'est-à-dire que c'est une histoire qui comprend des personnages réels. Il y a la fille Marie Curie, sa fille, son gendre, et on a aussi mêlé aux personnages réels des personnages imaginaires de l'époque, certains encore très connus comme le docteur Mabuse par exemple, d'autres totalement oubliés comme le Nyctalope qui était le premier super-héros parisien puisqu'il avait commencé ses aventures en 1908. Ces histoires ont paru dans le journal Le Matin en feuilleton pendant toute l'entre-deux-guerres. Il avait donc des centaines de milliers de lecteurs. Bon, le Nyctalope, c'est une sorte de Batman parisien avant la lettre, quoi. Il voit la nuit, il a un cœur artificiel, il dirige une sorte d'organisation anticriminelle. Et après la guerre, plus personne n'a plus jamais entendu parler de lui. Donc, on transforme un fait littéraire et culturel en un fait, disons, de science-fiction.
Pourquoi avoir choisi la bande dessinée? On vous connaît effectivement plus pour vos écrits.
Ben, c'est-à-dire que moi d'abord j'ai commencé par la bande dessinée. En fait, la première chose que j'ai, ma première activité dans le domaine, c'était en 82-83, au moment de la création des radios libres. J'étais encore lycéen et je ne suis pas sûr, mais je crois que j'ai créé la première émission consacrée à la bande dessinée sur la bande FM. Et puis après j'ai travaillé 3 ans comme vendeur dans les premières librairies albums du quartier latin, donc j'étais un vendeur de bande dessinée. Et j'avais des projets à ce moment-là qui ne se sont pas réalisés, donc j'ai écrit parce que j'aimais écrire aussi des romans tout seul, j'aimais l'écriture solitaire, littéraire, mais j'ai jamais renoncé à l'idée de faire la bande dessinée. Et en 99-2000, d'un seul coup, j'ai surplongé dans cet univers puisque Enki Bilal m'a demandé de faire le scénario de son film Immortel Ad Vitam, enfin de l'aider à faire le scénario puisqu'on partait de La Foire aux Immortels. Il m'a présenté à Philippe Druyer avec qui j'ai commencé à travailler. Enfin bon, j'ai replongé un peu dans cet univers. Et quand La Talente a voulu se lancer dans la bande dessinée, bah en fait, c'était assez naturel que je m'en mêle. Et donc, parmi les projets que j'ai proposés, il y avait cela, et assez miraculeusement ça s'est réalisé alors que c'était pas gagné au départ, parce qu'il s'agit vraiment de faire un comics français dans le premier sens du terme.
Le choix de Jess au dessin,
c'est lui qui s'est choisi. Jess était l'un des illustrateurs vedettes de La Talente en littérature. Il avait fait les illustrations d'un de mes recueils de nouvelles, Le Livre des Ombres. Et en fait, quand j'ai parlé du projet de Brigade Chimérique à La Talente, c'était pas vraiment en tant que projet concret. C'était plutôt une sorte de souhait que j'avais. Je disais, ce serait formidable si on pouvait faire. Sachant que c'était un très gros investissement en temps, en argent pour un éditeur de taille moyenne. Et donc, il y avait des garanties que je pouvais pas apporter de ce côté-là. Et en discutant quand même de la faisabilité de ce projet, à un moment, Georges Merel, le directeur de collection, a dit mais on pourrait demander à Jess de faire un design général pour voir si on peut ensuite embaucher des jeunes dessinateurs comme un studio à l'américaine. On cherchait des solutions pour fonctionner de manière pratique sans trop y croire. Jess m'a demandé un petit script de 3 planches pour se tester, pour voir si ça lui plaisait, et je pensais qu'il ferait un simple crayonné. Et en fait, il m'a renvoyé les 3 planches ancrées au bout d'une semaine, et c'était absolument splendide. Et il m'a dit, je crois que je vais tout faire. Et donc, à partir de là, on s'est dit, on le fait, puisqu'on a un dessinateur, un scénariste, un éditeur, c'est parti, quoi. Et ça a commencé comme ça.
Pour les personnages, au niveau de l'histoire, c'est un petit peu nébuleux au début, ça s'accélère vraiment sur le 2e tome, le 3e, c'est plein de révélations, ça va être comme ça, crescendo?
Oui, la caractéristique de cette histoire, c'est qu'elle n'est pas ouverte, elle est fermée. C'est pas une série où on part d'une situation et puis on la laisse évoluer comme elle veut. Nous, on est conscient qu'on raconte, et c'est une volonté délibérée, on raconte la fin d'un monde. Puisque la question, c'est où sont passés les super-européens, pourquoi ils ont disparu. On raconte cette disparition, on raconte une catastrophe. Cette catastrophe, tout le monde la connaît, c'est la Deuxième Guerre mondiale, et du point de vue culturel, dans notre champ à nous, ce qui nous intéresse, en l'occurrence, dans cette histoire, c'est de raconter l'impossibilité de penser le surhomme après le nazisme en Europe. La raison pour laquelle il y a des surhommes dans la littérature et dans la bande dessinée qu'aux États-Unis, c'est que les États-Unis n'ont pas eu une attitude trouble envers le nazisme. Ils n'ont jamais été contaminés. Ils n'ont fait que lutter contre et ils ont gagné. En Europe, c'est beaucoup plus compliqué puisque pratiquement toute l'Europe sauf l'Angleterre a été envahie et à un moment ou à un autre a collaboré avec les nazis. Donc le thème du surhomme est pratiquement impossible à traiter dans la culture européenne et la conscience européenne après la Deuxième Guerre mondiale. Et notre histoire, elle s'achève là. Donc on sait que c'est tragique. Donc ça va crescendo vers une révélation que tout le monde connaît déjà implicitement et inconsciemment. Mais en fait, on s'est rendu compte, on le voit aux réactions qu'on a et qui commencent à être assez nombreuses et intenses sur la bande, de la part des lecteurs. Les lecteurs ont une attitude très curieuse, ils disent « on connaît tous les personnages mais on n'en connaît aucun, on sait ce que vous racontez mais on ne sait pas ce que vous racontez ». C'est-à-dire on fait une sorte de retour sur un refoulé que tout le monde a en Europe mais dont personne n'a vraiment conscience, ce qui est d'ailleurs la définition d'un refoulé. Et donc l'histoire va crescendo jusqu'au bout qui est la catastrophe.
Comment est-ce que vous avez eu l'idée de mettre ces quatre super-héros dans le corps de Jean ?
Il y a une réflexion un peu, comment dire, élémentaire au départ, qui était j'ai toujours été fasciné par les gens qui inventent énormément de personnages, et en particulier la figure de Stan Lee. Enfin, je me souviens avoir été frappé une fois par une interview de Stan Lee où l'image qui l'accompagnait, c'était une photo de lui avec tous ses personnages fétiches qui jaillissaient de sa tête. Et je me suis dit, au fond, c'est vrai, c'est quand même tout ça sort du cerveau et de l'esprit d'un seul homme. Et de là, l'idée de se dire, peut-être que il y a deux ou trois grands archétypes, deux ou trois grandes figures héroïques. Il y a par exemple, pour prendre des exemples connus, Hulk, dans l'imaginaire de Stan Lee, c'est un autre, la chose. Et les hommes bêtes sont tous plus ou moins la même homme bête avec des déclinaisons différentes. Donc, quelles sont les très très grandes figures archétypales qui sont au centre du processus créatif? Et donc, la femme fleur, l'homme animal, le squelette animé et le soldat invincible sont quatre archétypes. Or, il se trouve que ces archétypes, ils existent aussi dans la culture européenne. Moi, je me souviens de la joie que j'ai éprouvée quand je me suis dit, le soldat inconnu, c'est vraiment un très beau nom pour un super-héros européen, parce que le soldat inconnu, il y a des statues de lui dans chaque village de France. Donc, c'est un archétype que tout le monde connaît. Et en fait, ça s'est fait comme ça, en réfléchissant sur la nature à la fois psychologique de la création, sur le fait que peut-être toutes les figures de super-héros qu'on connaît procèdent de deux ou trois grandes figures mythiques qui, elles, sont très anciennes. On a essayé de les laisser monter à la surface dans le processus créatif et de prendre le pouvoir. C'est ce qu'elles ont fait.
Est-ce que vous allez faire voyager vos personnages dans toute l'Europe? Parce que pour l'instant, ça se place principalement à Paris.
Oui, la première partie du cycle, qui constitue une sorte de mini-histoire terme close en elle-même, les trois premiers tomes, se passe à Paris. Et ensuite, à partir du tome 4, le premier épisode s'appelle Politique internationale, donc on change d'échelle, on aborde le reste du continent, et on va essentiellement à Métropolis et à Varsovie, qui sont les deux endroits où, alors un réel, puisque Varsovie a été, et la Pologne ont été le lieu du partage du pouvoir entre les nazis et les soviétiques, au moment du pacte germano-soviétique. D'autre part, à Métropolis, dont on a fait la capitale imaginaire, mais terrifiante, du docteur Mabuse, qui est l'endroit d'où partent toutes les manipulations, et où tout finit.
Est-ce que vous auriez une bande-son à conseiller, en même temps qu'on lit La Brigade Chimérique ?
C'est une très bonne question à laquelle j'ai pas de réponse. Je sais qu'il y a un petit film de présentation de la brigade qui a été fait par les éditions de la Talente, et un amateur un mélomane et un ingénieur du son qui est fou de cette bande dessinée a créé une bande son spécifique par sampling. Elle sera audible sur l'internet très très vite, et je pense que c'est dans ces directions-là qu'il faut chercher. Mais sinon, je suis totalement incompétent sur le sujet.
Vous travaillez vous en musique ?
Non, je travaille pas en musique. J'ai besoin du silence pour écrire.
Un mot peut-être sur l'ambiance des Utopiales ?
Moi, je suis très frappé. J'étais pas venu l'année dernière, mais j'étais venu l'année d'avant. Je suis assez frappé par l'ambiance qui règne, qui est très joyeuse. Je trouve que le climat est très détendu, et surtout, je suis frappé de l'affluence, évidemment. Et aussi, un autre trait me frappe, c'est que j'ai connu le milieu de la SF dans les années 90, quand il était vraiment réduit au minimum. On a vécu une crise très très grave au début des années 90. Il y avait pratiquement plus d'éditeurs qui publiaient d'auteurs français. Il y avait plus de revues. Il y avait plus d'anthologies. Bref, il y avait plus tout ce qui fait que le genre a une actualité autre que celle du gros roman qui se vend, quoi. Voilà, il n'y avait pas toute cette espèce de murmure et d'agitation qui fait que c'est un vrai milieu qui a conscience de lui-même et qui se sent exister. Et aujourd'hui, non seulement tous ces instruments éditoriaux ont été rétablis, l'Internet, évidemment, y joue un très grand rôle aussi via les forums et les sites spécialisés, mais il y a aussi maintenant des amitiés qui sont nouées avec les auteurs américains, on est les auteurs anglais, les auteurs d'Europe de l'Est quand ils viennent. Il y a une espèce de fraternité internationale de l'imaginaire, on va dire, et qui est très très agréable. C'est devenu un monde très très cosmopolite, il est plus provincial comme il était il y a une dizaine d'années, et ça c'est aussi une dimension très frappante. C'est vraiment un festival international.
Un mot pour conclure ?
Un mot sur le fait que c'est pas une, c'est plutôt une très bonne période pour être un auteur de ce style, et donc j'espère un lecteur de ce style. Il y a une très grande abondance d'œuvres intéressantes, et on vit peut-être ce moment magique qu'on attend, qu'on est beaucoup à attendre depuis un certain temps, depuis, pour certains d'entre nous, 30 ou 40 ans, les plus anciens, qui est le moment du décloisonnement, c'est-à-dire le moment où la littérature tout court, va cesser d'avoir cette espèce d'œillère psychorigide sur l'imaginaire au sens le plus large et accepter que ce soit de la littérature et que ça ait place dans la littérature. Ça fait 10 ans que les deux auteurs qui font le plus de bruit dans la littérature française sont deux auteurs de science-fiction, Michel Houellebecq et Maurice Dantec. On les aime, on les aime pas, on trouve les polémiques intéressantes ou agaçantes, peu importe, mais ils ont contribué à faire que la littérature française était vivante et intéressante ces dernières années. Et ces deux auteurs de science-fiction, le journal de Maurice Dantec qui a fait un tel bruit, c'est le journal d'un auteur de science-fiction au sens propre. On le voit manipuler des sources aussi bien littéraires que scientifiques. Bon, et c'est une partie du scandale est là d'ailleurs, c'est-à-dire dans cette hétérogénéité de l'inspiration. Et je pense qu'on est en train de vivre ça, ce moment où à la fois l'ASF en tant que littérature n'a plus rien à prouver au niveau de l'ambition littéraire et où la littérature dite blanche ou généraliste ouvre enfin les portes en se disant oui, vous avez votre place, voilà. Et si ça réussit, ce sera sans doute un moment assez heureux, voilà. Merci.